Fais-tu du message aujourd'hui? Parce que là, le Seigneur veut nous parler à travers sa parole. Que ça fasse la première fois que tu entends le message ou que ça fasse 1000 fois que tu entends un message. Faut que tu rouvres tes oreilles, puis tu rouvres tes yeux, puis dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, de comprendre, puis de pouvoir appliquer à ma vie? Le Seigneur veut nous parler. Il nous parle de toutes les façons, en lisant la Bible, il nous parle quand on écoute des enseignements ou des prédications. Ouvrons nos yeux et nos oreilles parce que le Seigneur veut nous dire ce matin qu'il nous aime.
Amen. Amen.
On a besoin de se le faire dire. Est-ce qu'il y en a qui sont tannés de se faire dire qu'ils sont aimés?
Non.
Il n'y a pas personne qui y en a trop entendu des « je t'aime ». Mais de se faire dire que Dieu nous aime, c'est encore une chose qu'on l'a pas entendu directement. Certaines personnes peuvent dire qu'ils ont entendu que Dieu les aimait. Mais c'est pas tout le monde qui peut dire que Dieu les aime parce qu'ils savent pas que Dieu les aime. Ils ont besoin d'entendre par quelqu'un que Dieu les aime. Puis là, des référés à la parole de Dieu pour qu'ils puissent comprendre que Dieu nous aime. Puis il aime pas juste ses enfants. Il aime tout le monde sur la planète. Puis vous allez voir, même si Dieu il aime pas ce que le monde fait, Dieu il aime les gens, puis il fait tout pour les ramener à lui. Amen. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés. Je te remercie pour ta parole que tu vas nous donner ce matin. Merci pour les versets de ta parole qui vont nous parler, qui vont nous montrer ce que tu penses à propos de nous, comment est-ce que tu nous aimes. Merci Seigneur de te révéler, qu'on puisse apprendre à te connaître dans tout ça, puis qu'on puisse apprendre à connaître ton amour. Merci de ce que tu vas faire au milieu de nous dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Le titre du message, c'est « Répondez à l'amour de Dieu ». Comment est-ce qu'on peut mesurer l'amour dans un couple? Est-ce qu'on peut prendre un tape à mesurer puis commencer à mesurer ça? Voir combien ils s'aiment tous les deux. C'est une unité de mesure qui se mesure en liquide ou en pesanteur ou en mesure?
En action.
C'est exactement ça le point. Comment est-ce qu'un couple peut... qu'on peut mesurer l'amour qu'ils ont un envers l'autre, c'est en action. Qu'est-ce qu'ils font pour démontrer qu'ils aiment l'autre? C'est facile de dire « j'aime ». J'aime ma femme. Ou comment est-ce qu'on peut mesurer l'amour d'une personne envers son prochain? C'est facile de dire, mais comment est-ce qu'on peut le mesurer? C'est en action. C'est ça que Jésus a dit. À ceci, ils reconnaîtront que si j'avais de l'amour pour les uns pour les autres, donc, il faut qu'il y ait des choses visibles qui se passent pour qu'on voit, hey, ces gens-là, ils aiment les autres. Ils m'aiment quand j'y vais, je me sens aimé, je me sens accepté, je me sens entouré, je me sens écouté. Il y a toutes sortes de petits signes qui démontrent l'amour. Puis, comment est-ce qu'on peut mesurer l'amour de Dieu maintenant? Pardon?
En infini.
Oui, on peut dire que c'est en infini, mais... l'amour de Dieu se voit aussi par ses actions, par ce qu'il a dit, par ce qu'il a fait. Puis là, pour le comprendre, il faut aller lire dans la parole de Dieu pour voir des preuves que Dieu nous aime. Parce que sinon, si on n'a pas d'arguments historiques, puis des preuves de dire, mais Dieu a fait ça à tel moment, Dieu a agi comme ça, Dieu a parlé comme ça, mais on n'a pas réellement de preuves que Dieu nous aime, à moins d'aller dans les preuves historiques. C'est où la meilleure place où on a des informations sur Dieu? Dans la Bible. La parole de Dieu, c'est la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le livre de Dieu. C'est là-dedans qu'on peut apprendre à connaître Dieu. Puis on apprend à connaître aussi sa volonté. On apprend à connaître ce qu'il a déclaré. On apprend à connaître ce qu'il a fait. Dans la Bible, ça nous révèle ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait au début de la création, ce qu'il a fait avec le peuple juif, ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ. Tout ça... ça va nous aider à mesurer l'amour de Dieu. Dans Éphésiens 3, le verset 18, l'apôtre Paul, il priait pour que l'église des Éphésiens, il dit, « Pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut que tous ses enfants puissent connaître la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Ça se mesure, mais ça se mesure si on est attentif à ce qu'il a dit puis ce qu'il a fait. On va s'apercevoir comment est-ce que Dieu nous aime, comment est-ce que Christ nous a aimés. Parce que c'est important de connaître ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Puis c'est une chose qui est nécessaire qu'on se sente aimé de la part de Dieu. Peut-être qu'on a vu des rejets, peut-être qu'on vit des peurs, peut-être qu'on a fait encore des péchés, on est encore dans des choses qui déplaisent à Dieu, puis on pense que Dieu nous aime pas, puis que Dieu nous a rejetés. Mais Dieu veut nous parler ce matin avec ça, parce que son amour est encore plus grand que toutes nos barrières. Puis il nous appelle à profiter pleinement de son amour. Puis ça nous dit, là, vous allez comprendre avec tous les saints quelle est sa grandeur, sa largeur, sa hauteur de son amour, puis jusqu'à vous soyez tous remplis de la plénitude de Dieu. Dieu veut que vous goûtiez son amour, que vous soyez remplis de son amour, remplis de sa plénitude, puis toutes vos barrières que vous avez, être prêts à tout balancer ça, parce qu'il y en a un spécialiste des mensonges, puis qui essaye de nous tenir loin des promesses de Dieu. Ça, c'est l'ennemi de tout le monde sur la planète. C'est le diable lui-même avec ses démons. Puis leur menterie qu'ils mettent dans le cœur des hommes pour leur faire accroire qu'ils sont pas aimés de Dieu, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, ils ont des complexes, puis toutes sortes de barrières. Puis c'est pas Dieu qui a mis ça. Dieu nous aime, puis il veut qu'on comprenne qu'il nous aime. Amen. Dieu l'a démontré son amour pour ses créatures. Vous allez le voir que Dieu, il a pas juste créé ses créatures, là, Adam et Ève, puis toute la descendance humaine, juste pour dire que hein, je vous ai mis là, arrangez-vous avec vos troubles, je veux rien savoir de vous autres. C'est pas de même que Dieu pense. Dieu, il est attentionné, puis il veut développer un contact avec chacune des personnes qui vivent sur cette terre. Il veut développer une relation. Il veut développer, pareil comme un homme qui aime sa femme, puis la femme aime son homme, puis le contact d'amour qu'il y a entre les deux. Dieu veut développer la même chose avec chacune de ses créatures sur la terre. Parce qu'il nous aime tout le monde. Puis il nous appelle à croire à son amour. Il nous dit dans les Actes, au chapitre 17, le verset 26, « Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, ça c'est d'Adam, le sang d'Adam, parce que Ève était formée d'Adam, donc elle est sortie du même sang, puis c'est de la descendance de l'humanité, sort d'Adam et Ève. Le fait que tous les hommes sortent d'un seul sang, puis qu'ils habitaient sur toute la surface de la terre, puis il a déterminé la durée des temps, parce que Dieu il a quand même déterminé qu'il va y avoir une fin à cette histoire-là, puis il a déterminé aussi les bornes de notre demeure, c'est ça la planète. Il a voulu qu'on cherche le Seigneur, puis qu'on s'efforce à le trouver en tâtonnant, bien qu'il soit pas loin de nous, car en lui nous avons la vie et le mouvement et l'être. » Je vais m'expliquer. Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que toute la descendance humaine vient d'Adam et Ève, puis c'est Dieu qui les a placés là, qui les a créés. Puis là, il leur a dit, « Allez, vous avez du temps devant vous, notre temps est déterminé, il y en a qui vont vivre 80 ans, il y en a qui vont vivre 110 ans, il y en a qui vont vivre 110 ans. C'est Dieu qui décide la durée de notre temps terrestre, puis ce qu'on a à faire, comme là nous on est venus au monde ici, c'est nos limites, c'est on peut aller partout sur la terre aujourd'hui, mais Dieu a quand même, il nous donne la liberté de fonctionner, mais il veut qu'on comprenne une chose, c'est beau qu'il nous ait mis là. Il n'a pas juste comme ramasser une boîte de bébelles puis qu'il l'a serré dans le garde-robe. Dieu veut développer un contact intime avec chacune des brebis. Il a voulu que les gens le cherchent, le Seigneur, puis qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Dieu veut qu'on le cherche, puis il veut qu'on le trouve en tâtonnant. Pourquoi en tâtonnant? Parce qu'on avance dans la vie avec nos yeux humains, on voit les choses humaines. Puis comme je vous ai dit tantôt quand j'emmenais les chants, Dieu veut nous ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on découvre qu'il est là. Parce qu'il est pas loin de nous. En lui, en Dieu, on a la vie, le mouvement et l'être. Si on existe, c'est parce que le Créateur nous maintient en existence. Si on continue à respirer et à marcher sur cette terre, c'est parce que c'est Dieu qui nous maintient en existence. Tous les humains sont sur la terre, maintenus en existence par Dieu. Même si c'est une personne méchante qui fait du mal puis qui tue du monde, Dieu la maintient en vie. Dieu aime cette personne-là, puis il s'attend à ce que cette personne-là se mette à chercher en tâtonnant pour réussir à découvrir que Dieu, le vrai Dieu, est là pour pouvoir vivre ce contact-là. Dieu nous aime, puis il attend que chaque être humain se tourne vers lui, qu'on développe une relation personnelle avec lui. On cherche dans l'espace, puis on cherche dans les microscopes. On n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Il est à côté de toi. Si tu vis présentement, sache que tu es là, puis c'est Dieu qui te maintient en vie. Puis c'est lui qui est là, qui t'environne, qui t'entoure. Il est autour de tout le monde, puis maintient l'univers en existence. Fait que chaque être humain, s'il s'arrête, puis il se dit, « T'es où, Seigneur? T'as-tu de quoi me dire? » Puis là, il est à l'écoute, puis cherchez. Mais la Bible a dit, « Cherchez, et vous trouverez. » Cherchez, quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur, il est là, puis il attend qu'on s'efforce à le chercher en tâtonnant. C'est un peu à l'aveuglette. Faut essayer de faire un petit effort de le trouver, parce qu'on peut dire, « Ah, ben moi, j'ai pas le temps de m'occuper de Dieu. Je veux vivre ma vie à ma manière. » Là, on part dans notre vie. Mais on trouve pas Dieu de cette façon-là. Faut que tu t'arrêtes. Tu commences à considérer ce qui se passe, peut-être aller lire ses écrits, commencer à lui parler, puis il va se révéler. Dieu a promis dans des passages qu'il se révélera à celui qui le cherche. Parce que quoi? Parce que Dieu nous aime. Puis il nous a pas créés pour nous livrer à nous-mêmes, il nous a créés pour qu'on le trouve, puis qu'on développe cette relation-d'amour-là avec lui. Le Seigneur l'a démontré comment il aimait ses créatures dans l'histoire, parce que Dieu s'était choisi un peuple pour représenter son nom sur la terre, c'est le peuple d'Israël. Il avait été choisi par Dieu pour porter le nom de Dieu sur la terre, puis porter sa parole, pour répandre la parole. Puis Dieu l'aimait, le peuple d'Israël, malgré que le peuple d'Israël, si on lit l'historique là, dans les écrits de l'Ancien Testament, ils ont été rebelles à Dieu, se sont détournés de Dieu, ils ont abandonné Dieu, ils sont tournés vers d'autres faux dieux. Quelle insulte à Dieu! Ils ont tout fait pour se faire haïr par Dieu. Ils ne pouvaient pas dire, on ne connaît pas Dieu, Dieu s'était révélé à Abraham, puis la bénédiction t'a descendu dans la descendance, puis Dieu était avec le peuple d'Israël, il les a sortis d'Égypte, de l'esclavage, par la main de Moïse, puis la main d'un ange, pour sortir le peuple et l'amener dans une terre promise. Dieu voulait bénir ce peuple-là. Puis là, le Seigneur, comment est-ce qu'il a démontré son amour? Jésus l'a dit, puis là, on va lire un passage dans Romains au chapitre 10, le verset 21. « Mais au sujet d'Israël, il dit, » ça c'est Dieu qui va parler, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Continuellement, Dieu tendait ses mains à son peuple qui était rebelle et contredisant. Quand que tu fais face à une personne qui est rebelle, contredisante, méchante, puis qui te dit toutes sortes de méchancetés, t'es-tu porté à vouloir garder un contact avec cette personne-là?
Non.
Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, ben on lui dira rien, on va essayer de plus lui dire rien, puis on va essayer de se sauver, de la fuir. Mais c'est pas ça que Dieu a fait. Malgré le fait que le peuple d'Israël était rebelle puis contredisant, une journée il dit « Oui, Seigneur, on veut tuer », le lendemain, il était à genoux devant un autre idole. Malgré ça, Dieu tendait ses mains puis lui disait « Revenez à moi, je vous aime, je veux vous restiez en communion avec moi, je veux vous bénir. » S'ils l'ont pas reçu la bénédiction, c'est pas parce que Dieu les aimait pas. Dieu a montré son amour dans sa patience qui a duré envers ces personnes-là. Je te dis pas que tout le peuple d'Israël était comme ça, parce qu'il y en avait qui aimaient l'Éternel, puis qui marchaient avec Dieu, puis attendaient les promesses de Dieu. Jésus lui-même répète un passage dans le même sens. Il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, puis qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu te rassembler tes enfants, comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, puis vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois, Jésus qui dit ça, Jésus était Dieu qui est venu en forme humaine pour venir accomplir une mission, mais il a parlé aussi, il a expliqué ce que Dieu a vécu dans l'Ancien Testament, parce qu'il était là, il était lui-même Dieu. Puis Dieu a tendu ses mains continuellement pour essayer de rassembler le peuple d'Israël. Il les aimait. Ça menait des preuves d'amour. Comment est-ce qu'un parent peut être tolérant envers son enfant qui aime, que malgré ses rébellions, malgré ses paroles blessantes, malgré ses mauvais choix, les parents continuent à l'aimer? C'est quoi qui nous retient à notre enfant? C'est l'amour. C'est pas parce qu'on est content de se faire dire des bêtises par notre enfant rebelle. C'est l'amour qui nous tient liés à vouloir toujours protéger, puis à vouloir conseiller, puis à vouloir aider ceux qui sont rebelles. Dieu était comme ça. Dieu, il aime ceux qui, il aime les gens, puis il veut leur donner toujours une autre chance. Dieu a toujours été prêt de renouveler son alliance avec Israël, malgré leur rébellion. Dans Néhémie, le verset 9, le chapitre 9, verset 17, ça dit, « Ils refusèrent d'obéir, en parlant du peuple d'Israël. Ils mirent en oubli les merveilles que tu as faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, là, il est en train de parler à Dieu, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne les abandonnes pas. » N'est-ce pas des belles paroles qui démontrent encore l'amour de Dieu? Comment est-ce que Dieu était toujours prêt à lui pardonner, à lui donner la miséricorde? C'est une pitié. Dieu avait pitié du peuple d'Israël, puis il voulait les rassembler, il voulait les ramener à lui. Un autre passage dans Isaïe, dans la même idée, dans Isaïe 54, le verset 5, il dit, « Car ton Créateur est ton époux. » Là, on parle comme si le peuple d'Israël était marié avec Dieu. Il dit, « L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. » Là, il est en train de nous dire que Dieu est en train de rappeler Israël comme si Israël serait sa femme, que Dieu est obligé de répudier parce qu'il était rebelle puis il était infidèle. Puis Dieu la rappelle comme, « Reviens à moi. » Dieu les aime. Il dit, « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Dieu veut accueillir même tous ces rebelles qui ont été rebelles à sa parole. Dans un instant de colère, j'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Ça venait des paroles qui nous démontrent l'amour de Dieu. Comment est-ce que Dieu y rattira à lui tous ceux qui s'étaient rebellés? Dans l'histoire, là, quand on parle, là, on parle du peuple d'Israël, mais dans l'histoire, les autres peuples qui étaient là autour, Dieu les aimait-tu? Est-ce que Dieu aimait les gens qui sont autour, les autres peuples?
Oui. Oui,
Dieu les aime. Dieu, on va voir quelques passages qui nous en parlent. Dieu aime toutes ses créatures. Puis il voudrait que tout le monde marche en communion avec lui. Dans Actes 14, 16, ça nous dit, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Dieu a laissé toutes les nations suivre leur chemin sur la terre, faire leur volonté, mais Dieu n'a jamais cessé de leur montrer qui qu'il était. Il s'est toujours révélé aux gens. Il a cherché toujours à se révéler aux gens. Ça ne veut pas dire que tous les gens l'ont trouvé, mais Dieu a toujours rendu témoignage. Il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. On parle aux gens dans le monde. En faisant du bien, en dispensant du ciel les pluies des saisons fertiles, en vous donnant de la nourriture avec abondance, en remplissant vos cœurs de joie. Les gens dans le monde, s'ils mangent aujourd'hui, là, tout le monde, même nous, C'est parce que c'est Dieu qui a permis qu'on l'ait, cette nourriture-là. Puis Dieu nous accorde la nourriture, nous accorde la pluie, nous accorde le soleil. Dans un autre passage dans les évangiles, il fait donner son soleil sur les bons et sur les méchants, puis il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu prend soin des êtres humains sur la terre. Je dis pas que partout sur la terre, présentement, ils ont la nourriture dans leurs mains. On le sait qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des pauvres, mais il y en aura assez si tout le monde mettrait du sien pour nourrir la planète. Mais les gens refusent de partager. C'est là que c'est pas à cause de Dieu. Dieu avait prévu de pourvoir, puis il aurait béni si tout le monde serait tourné vers lui. Mais les gens, il y a des méchants qui font souffrir les autres, puis il y en a qui payent le prix au bout de la ligne. Mais Dieu, non seulement qu'il pourvoit des saisons fertiles puis des nourritures avec abondance, mais il remplit nos cœurs de joie aussi. On vit des bons moments avec nos enfants, avec notre épouse, puis on est heureux. Mais c'est Dieu qui fait ça dans le cœur des gens. Même s'ils connaissent pas Dieu, c'est Dieu qui a créé le bonheur, qui a créé la joie, qui a créé la paix, qui a créé l'amour. C'est Dieu qui a créé ça. Puis Dieu voulait la distribuer à tout le monde sur la terre. Jésus a parlé de la plus grande preuve d'amour qu'on pourra faire en tant qu'humain. Il a dit ça dans une simple phrase. Dans Jean 15, 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Tant qu'une personne peut arriver, là je vous parle de vos amis. Je vous pose la question aujourd'hui, êtes-vous prête à donner votre vie pour un de vos amis? Sont rares. Peut-être quelqu'un donnera sa vie pour un homme de bien. Parce qu'il y en a des gens qui ont donné leur vie pour sauver la vie d'une autre personne, un homme de bien. Pensez à tous les gars qui sont enrôlés dans l'armée et qui défendent notre pays. Ils s'en vont au front pour essayer de régler des problèmes qui existent dans d'autres pays ou pour défendre notre pays, puis ils disent c'est pour l'amour du pays, pour défendre le pays. Ils veulent sauver, protéger leur famille, se sont enrôlés dans les forces de l'armée. Ça n'est une partie. Ceux qui s'enrôlent comme policiers, des fois on dit « Ah, c'est des policiers, ils sont bien payés. » C'est pas juste cette pensée-là qu'on doit avoir pour les policiers, parce que les policiers renoncent à beaucoup de choses de leur vie personnelle pour vivre la vie de policier. Mon père était policier, il était pas souvent à la maison. Il faisait de l'overtime, puis il passait en cours. À part de son chiffre de travailler toute sa journée, il fallait qu'il aille en cours des journées pour pouvoir, pour des causes, quand il était appelé à témoigner dans les causes, puis c'était d'autres temps à travailler, puis il y a des fois des appels pour des choses spéciales, il fallait qu'il aille. Il se prive, veut pas, il se prive de sa vie personnelle, puis il risque sa vie pour les autres, parce que mon père était désamorceur de bombes, puis tireur d'élite, puis plongée sous-marine, c'est la SWAT à Montréal, il a travaillé à fonder SWAT à Montréal, puis il a risqué sa vie à plusieurs reprises, dans des prises d'otages, ou dans des centres, dans des où il y a des gens armés, dans des bâtiments, puis il fallait qu'ils rentrent. Mais des gens comme ça, il y en a qui le font par dévouement, parce qu'ils aiment les autres. Je te dis pas que tous les policiers sont comme ça. Il y en a qui y vont pour la paye, puis il y en a qui y vont parce qu'ils sont obligés, parce que leur père leur a dit, va faire l'application là, puis ils ont été, puis là, ils travaillent là, mais ils n'aiment pas leur job. Puis ça arrive. Mais il y a du monde, c'est pour le dévouement. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce qu'il voulait nous mettre comme puce à l'oreille, le Seigneur, là, il voulait nous montrer, regardez bien ce qui va se produire dans pas long. Vous allez voir une preuve de l'amour de Dieu pour vous. Comment c'est arrivé? Jésus a accepté volontairement de répondre à l'appel puis d'aller mourir à la croix, sur la croix. Volontairement, là, il a décidé d'y aller pour accomplir la volonté de son Père, parce qu'il nous aimait chacun de nous. Parce qu'il est obligatoire qu'il y aille là s'il voulait qu'on soit sauvés. On était tous des pécheurs, on mérite rien. On était tous dans le péché, puis à cause de nos péchés, on était séparés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, puis on n'aura pas pu rentrer dans la vie éternelle. Nos péchés nous empêchent d'entrer dans la vie éternelle. Notre âme est souillée par nos péchés. Même si tu aurais fait juste un péché dans toute ta vie, tu peux pas rentrer. Fallait qu'il y ait un innocent qui décide de payer la dette de tes péchés pour que tu puisses rentrer gratuitement. Jésus était Dieu fait homme, il est venu en forme humaine, puis il a vécu une vie sans péché, puis il était le seul candidat possible à pouvoir payer pour les péchés des autres. Il a accepté parce qu'il nous aimait, il a accepté d'aller payer la dette des péchés en mourant d'une mort souffrante, atroce, puis il a pris sur lui les péchés de l'humanité entière, parce qu'il nous aimait. La preuve d'amour de Dieu, c'est qu'il envoya son Fils mourir à notre place. Dans Romains 5:8, Dieu prouve son amour envers nous que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu l'a prouvé son amour dans ce qu'on est encore des pécheurs. On n'y a pas attendu qu'on soit parfait, puis il dit là, je vais aller mourir pour eux parce qu'ils sont rendus parfaits. Non, on était tous des rebelles, on connaissait pas Dieu, on n'était pas en contact avec, là on n'était pas là nous personnellement, mais dans ce temps-là, les gens qui étaient là, ils étaient tous rebelles, puis Jésus a accepté d'aller payer la dette des péchés de chacun de ceux qui vivent sur cette terre. Puis pas juste les péchés de ceux qui étaient là, c'est les péchés de tout le monde jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à temps qu'ils décèdent, jusqu'à temps que la porte de la grâce soit fermée. Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime en premier. Il a fait les premiers pas. Malgré qu'on l'haïssait, malgré qu'on était rebelle, malgré qu'on était méchant envers lui, il a accepté de venir puis dans forme humaine, puis de mourir sur la croix. Ça nous dit ça dans 1 Jean 4:9. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions pour lui. Puis cet amour consiste non pas ce que nous avons aimé Dieu, mais de ce qu'il nous a aimé. Puis là, il a envoyé son Fils. C'est Dieu qui a fait les premiers pas pour notre réconciliation. Comme je vous disais tantôt, son cœur à Dieu, il nous aime tellement qu'il était prêt à tout faire pour nous donner une grâce de pouvoir recevoir le cadeau du pardon de nos péchés puis de recevoir la présence de Dieu dans nos vies, le Saint-Esprit qui vient dans nos vies, pour nous donner de naître de nouveau, pour nous bénir, qu'on puisse avoir l'espérance d'entrer dans le royaume céleste. Puis Dieu, il aime tout le monde. Puis son sacrifice, quand il a envoyé Jésus mourir sur la croix, là, c'était pour tout le monde. C'était pas juste pour quelques personnes. On voit ça que le Seigneur appelle tout le monde. Tous sont invités au salut. Ça nous dit ça dans Jean 3,16. Car Dieu il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tout le monde. Il a tout fait pour rendre ça le plus facile possible. Tu as juste besoin de croire, de repentir puis de croire. Repentir, ça veut dire change de vie. Faut que tu veuilles changer de vie. Faut que tu veuilles arrêter d'être rebelle avec Dieu puis te dire, Seigneur, merci pour ton cadeau. Je suis pécheur, je mérite rien, mais je l'accepte, Jésus, comme mon sauveur. Jésus a été envoyé pour que moi je puisse l'obtenir gratuitement, puis pas juste moi qui peux l'obtenir. Quiconque croit en lui. Donc, cette promesse-là est pour tous les humains sur la terre. S'il aurait dit, ça coûte $1 million chaque, combien d'entre nous seraient capables de payer ça? Personne. Si je vous dis, vous avez juste à y croire par le recevoir, c'est-tu assez facile? Ça peut pas être plus facile que ça. Il a rendu ça le plus facile possible. Pas parce que c'est un cadeau qui vaut à rien, c'est un cadeau cheap, puis il le donne à tout le monde. Non, c'est parce qu'on n'aura jamais été capable de se le payer. Il fallait que lui le paye Puis là, c'est rendu gratuit, pas parce que ça coûte rien. Ça l'a coûté quelque chose. C'est Jésus qui a payé pour cela. Puis là, on fait juste recevoir le cadeau comme une grâce. Puis c'est pas parce qu'on était meilleur que les autres. C'est parce qu'on avait la foi puis a décidé de le donner à tous ceux qui veulent croire en lui. Amen.
Amen.
En plus, le Dieu, là, c'est pas juste le pardon de nos péchés qu'il veut nous donner, là. Il nous a rendu capables d'entrer dans son royaume puis de pouvoir profiter de sa vie éternelle avec lui. On est invité à aller à une place qu'on n'aurait jamais pu aller en tant qu'humain. Parce que notre vie humaine, c'est que tu commences à la naissance, tu vis ta vie terrestre, tu meurs à ta mort 50 ans, 70 ans, 90. Puis à cause de tes péchés, ta vie s'arrête là. Puis là, il y a un endroit pour, comme on dirait, storer tous ceux qui sont dans le péché. Ça s'appelle le séjour des morts, en attendant la résurrection. Puis la Bible dit qu'on va avoir à rendre compte, chacun des personnes qui ont vécu vont rendre compte de leur péché, sauf ceux qui ont passé par la porte, qui est Jésus. Puis là, tu reçois le pardon de tes péchés, puis là, t'es changé de royaume, t'es changé de camp. T'étais dans le camp du diable avant de commencer parce que tu vivais dans tes péchés. Puis là, il te pardonne, puis il dit, viens maintenant, tu rentres dans mon royaume. On est transporté dans le royaume de Dieu. On fait maintenant partie du royaume de Dieu. Ce royaume-là va vivre éternellement une histoire sans fin dans la présence de Dieu. Pas parce qu'on est meilleur, parce qu'on a juste saisi le cadeau qui était gratuit d'être pardonné. Ça nous dit dans Colossiens 1:12, rendez grâce au Père. Remerciez Dieu, là, de ce qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est où ça? Dans le ciel, dans le paradis, dans la vie éternelle. Il nous a rendu capables d'avoir part à cet héritage-là. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Par Jésus, on a la rédemption, puis on a la rémission des péchés. La rédemption, c'est le rachat. Jésus a payé ce que ça coûtait pour nous racheter. Il était comme nos pawn shops, puis on, nous autres, à cause de nos péchés, on appartenait au diable. Jésus a payé ce que ça coûtait, ordonne-moi son âme, elle m'appartient à cette heure. Parce qu'on confesse qu'on croit en Jésus, le sacrifice de Jésus tombe sur nous, on est maintenant racheté. Jésus a payé ce que ça coûtait pour qu'on sorte des griffes du diable, puis là il dit, là, maintenant cet homme-là, elle m'appartient, puis il nous emmène dans son royaume. On fait partie on est des concitoyens des saints. On est les saints qui vont vivre l'histoire sans fin avec Dieu. Puis il nous a remis notre dette. La rémission des péchés, c'est qu'il nous a pardonné. Il nous a remis notre dette. C'est fini, tu ne me dois rien. Maintenant, marche avec moi jusqu'à la fin. Garde la foi pour rester fidèle jusqu'à la fin. Dieu a encore montré la grandeur de son amour, qu'on peut reconnaître ça à cause de sa grande patience qu'il a envers tous les gens rebelles. Imaginez, là, 2 minutes, que vous êtes Dieu. Puis que là, vous créez un univers. Tu maintiens tout ça en place. L'univers complet, Dieu, est encore plus grand que ça, mais là, tu maintiens tout ça en place par ta puissance. Il y a une petite planète, là, qui n'est même pas une tête d'épingle à grandeur de l'univers. Puis sur cette planète-là, tu décides de créer des créatures qui sont en cours, même pas une tête d'épingle, c'est la grosseur de la planète. Puis là, tu essaies de leur dire, aimez-moi donc un petit peu, écoutez donc ce que j'ai à vous dire. Puis là, la gang te dit, on veut rien savoir de toi, puis achale-nous pas, puis quand ils crachent sur Dieu, Dieu le essaie, ben là, je vous aime, revenez. On n'a pas eu le temps de s'occuper de ces niaiseries-là. Nous autres, on veut vivre notre vie, puis on va avoir du plaisir ici. On profite de tout ce qui est là. Moi, en tout cas, j'ai une chance que Dieu n'y ait pas Daniel Poulain, parce que moi, ça aurait été... OK? T'es écrases toutes. Une chance que Dieu, il est amour, puis il est patient. Là, des bouts, là, je comprends que des fois, il est en colère. Mais il aime, puis il donne des chances, puis il attend. Dans Romains 9, 22, il dit, « Et dire que si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, il a supporté avec une grande patience les vases de colère formés pour la perdition. » Les gens qui étaient là, Dieu savait d'avance qui était pour croire, puis il les a aidés à venir au salut, puis il savait d'avance les autres qui ne voudraient pas croire, puis il les a endurés patiemment. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Pourtant, Dieu veut pas que les méchants périssent. Il veut qu'ils se repentent. Il veut qu'ils changent de vie. Il veut les avoir avec lui. Il en veut le plus grand nombre possible. Dans Ézéchiel, il dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. » Dieu veut tout faire pour aller rechercher les personnes. Il veut pas que ces personnes périssent. Parce que Dieu est amour. C'est là qu'est l'amour de Dieu. On la voit, on la mesure dans sa patience, dans ses bontés, dans ses grâces. Il endure, puis il rappelle encore, puis combien de fois qu'il a envoyé des prophètes au peuple d'Israël pour leur dire, revenez à l'Éternel, puis eux autres, le peuple d'Israël, ils tuaient les prophètes. Toutes les gens, sans exception, doivent reconnaître sa bonté, puis doivent venir à la repentance. Dans Romains, il dit, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Sa longanimité, c'est la lenteur de venger les fautes. Dieu, il est patient, puis il attend pour venger les fautes, pour mettre ses jugements. Il dit, « Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Là, il dit, « Mais par ton endurcissement puis ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. » Puis la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres. Tôt ou tard, on va mourir. Tôt ou tard, puis tout le monde va passer là, on va comparaître devant Dieu. On peut pas rien cacher à Dieu. Tout ce qu'on a vécu sur la terre, Dieu, il sait. Il est au courant de toutes nos pensées, tous nos sentiments, toutes nos paroles qu'on a pu dire, toutes les actions qu'on a faites dans notre vie. Il se rappelle de tout. Puis il connaît aussi nos problèmes, nos difficultés, tout ce qu'on a pu traverser dans notre vie. Dieu, il nous connaît entièrement, puis un jour, on va se présenter devant lui. On va avoir à rendre compte, parce qu'il va faire rendre compte à chacun selon ses œuvres. Puis Dieu, il nous dit, comme il veut pas qu'aucun périsse, il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu aime chaque individu sur cette terre, puis il nous appelle tous à demeurer en lui, à mettre notre foi en Jésus, à l'accepter comme notre sauveur personnel, puis de le suivre, puis de le servir, puis de pas le lâcher, de s'attacher à lui, puis de rester avec lui pour notre vie terrestre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre, puis qui fait qu'on peut s'éloigner du Seigneur. Puis il y en a d'autres qui ont déjà reçu Jésus dans leur cœur, mais qui l'ont abandonné, puis qui ont retourné dans le monde, puis qui vivent dans le péché. Puis Dieu veut pas que ces gens-là périssent non plus. Il les aime. Il veut que les gens reviennent à la foi, puis qu'ils s'accrochent à Jésus. Puis Dieu veut les renouveler. Alors regardez l'exemple de la parabole de l'enfant prodigue. C'est un enfant de son père, puis il a dit à son père, « Moi, je m'en vais vivre ma vie, de moi ma part de bien, m'en vais vivre ma vie à ma manière. » Il est allé dans le monde, puis il a tout dépensé dans la prostitution, puis à un moment donné, il s'est retrouvé avec plus rien. dans la pauvreté et dans la misère. Puis il s'est rappelé comment est-ce qu'il était bien auprès de son père. Puis là, il a dit, je vais me repentir, je vais m'humilier, puis je vais dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, puis je suis pas digne d'être appelé ton enfant. Puis là, je veux revenir. Puis il est parti, puis il est allé voir son père. Qu'est-ce que son père a fait? Ça, c'est une image de Dieu. Comment est-ce qu'il est prêt à reprendre ceux qui se sont égarés loin de lui? Ceux qui ont retourné dans leur vie de débauche après avoir reçu le Seigneur dans leur vie, qui ont parti dans la débauche puis dans l'égarement puis sont rendus toutes défaites à cause que leur vie est détruite par leurs, ce qu'ils ont vécu. Le père, quand il a vu son fils de loin revenir, il a couru pour aller le reprendre dans ses bras puis l'embrasser. Puis là, il était heureux que son fils était revenu. Puis son fils s'est repenti, il dit, traite-moi comme un de tes serviteurs. Puis il a dit non. Là, il a fait la fête, il a donné sa bague comme un signe d'alliance, il a donné un nouveau vêtement, une nouvelle robe pour un signe de revêtement, de purification de sa vie. Puis il a tué le veau gras, puis il a fait une fête pour le retour de son fils. Puis là, il a dit à son frère, il a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Là-dedans, ça nous montre encore l'amour de Dieu qui est prêt à nous recevoir, malgré qu'on a pu faire plein de bêtises après avoir connu Jésus. Puis Jésus nous appelle encore dans ce passage-là à retourner à lui, puis dire au Seigneur, je le regrette que j'ai fait, je te demande pardon pour mes péchés, puis je veux revenir tout simplement à toi. Puis qu'est-ce que Dieu va faire? Bien, il va nous resserrer encore dans ses bras parce qu'il nous aime. Il veut pas que les méchants meurent. Il veut qu'ils se repentent, puis il veut donner son salut, sa bénédiction, son alliance avec nous, puis il nous prépare une place qu'on va vivre pour l'éternité. Je vais faire un appel. S'il y en a qui ont déjà accepté Jésus-Christ, mais qui se sentent loin de lui, puis qui aimeraient revenir au Seigneur. Dieu, là, il nous tend les bras. Il est prêt, dans un autre parabole, il dit, il est prêt à laisser ses 99 brebis pour aller chercher la brebis qui s'est égarée. Dieu ne m'a pas de voir ceux qui viennent à lui. Puis il y en a d'autres, peut-être, c'est la première fois qu'ils entendent un message comme ça, puis qu'ils se disent, je sais que je suis pécheur, puis là, je viens d'apprendre que Jésus a payé toute sa croix pour que je puisse être pardonné, puis je veux le recevoir, son pardon. Je veux vivre ce contact-là, je veux la goûter, l'amour de Dieu. Je veux marcher en communion avec Dieu, je veux être sauvé, je veux y aller dans la vie éternelle. Mais si tu as entendu cette parole-là, puis ça t'appelle, tu sens que tu te sens appelé, c'est un tiraillement dans ta tête, dans ton cœur, peut-être. Tu dis peut-être que je me sens pas digne, ou peut-être j'ai tellement vu d'affaires de religion autour de moi, c'est encore une autre religion. Moi, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que j'ai rapporté ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour vous donner l'occasion d'accepter Jésus comme votre sauveur, de pouvoir être pardonné. Puis après ça, ça va être votre expérience avec Dieu. Vous allez vivre des choses avec Dieu, vous allez apercevoir qu'il est là, puis vous allez voir des exaucements de prière dans vos vies. Puis Dieu va se révéler à vous pour vous montrer qu'il vous aime. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire la paix avec Dieu ou qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel? Levez votre main à l'endroit où vous êtes, puis on va prier ensemble. On va prier ensemble. C'est une prière toute simple, mais c'est une prière d'engagement. Parce que la vie chrétienne, c'est comme le mariage. T'es pas gêné, tu l'aimes ta femme, ta future femme, puis t'es prêt à dire devant tout le monde, oui, je le veux. Mais s'engager pour Jésus, c'est la même affaire. On dit au Seigneur, oui, je l'accepte comme mon sauveur personnel. Je veux changer de vie. Je veux recevoir ce qu'il a à me donner. La nouvelle vie qui commence. On va faire une prière ensemble. Père Seigneur, je reconnais que je suis un homme pécheur. Que je suis perdu. Mais je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a versé son sang pour pardonner mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur. Je l'accepte comme mon Seigneur. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Prends ma vie, je la donne. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise tous les jours de ma vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne tous tes péchés. Maintenant, tu viens de naître de nouveau, ce que la Bible a dit. Celui qui invoque le Seigneur, quiconque invoque le nom du Seigneur sera point confus. Dieu se révèle. Il donne le Saint-Esprit, il y a une nouvelle vie qui commence. Marche avec Dieu, garde ta foi, nourris ta foi. Lis la parole de Dieu. Va dans une église comme ici aujourd'hui pour entendre la parole de Dieu, pour recevoir les enseignements qui vont te faire grandir spirituellement. Puis un jour, on va faire partie de ceux qui vivent cette histoire. Que ce soit dans 2 semaines, que ce soit dans 25 ans, on se retrouvera là au bord pour vivre cette histoire-là avec la présence de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.